écoutez le Poste National sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV. Il est 20h. Voici le journal, une présentation de Marie-Chantal Noah.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Promotion du vivre ensemble, une caravane de paix et de réconciliation sillonnera le département du Dongamantoum le 12 octobre prochain. Annonce des chefs traditionnels du Nord-Ouest reçue ce jour à Yaoundé par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Bientôt la rentrée académique dans les universités camerounaises. L'heure est aux pré-inscriptions et aux inscriptions. Le dossier du 20h prend le pouls dans certains campus tout en questionnant l'orientation académique. Comment se fait le choix des filières pour les COPS? Dans le fauteuil de l'invité du soir, Ignace Essono, responsable à l'université de Yaoundé 2. Réfection du pont sur le Danaï à Yagoua a fait suite aux inondations. Les travaux sont en cours. Le ministère des Travaux publics veille au grain. En sport, Coupe du Cameroun de football, les équipes finalistes se préparent activement avec en idée chacune de remporter le trophée. Bienvenue au journal Coexistence pacifique et vivre ensemble. La caravane de paix et de réconciliation des filles et fils du Dongamantoum avec la communauté Mbororo est annoncée le 12 octobre prochain. Message porté par les faunes du Nord-Ouest cet après-midi au premier ministre chef du gouvernement. En prélude à l'événement, Joseph John Gouté a salué cette initiative du vivre ensemble, l'un des piliers essentiels pour bâtir un Cameroun meilleur et nouveau. Surtout pour relancer les activités socio-économiques longtemps mises en berne dans le Dongamantoum. Laurentine Bokono.
Une image majestueuse comme la belle vêtue traditionnelle qu'aborde la délégation en honneur. Elle fera certainement date dans le narratif de la recherche des solutions définitives à la crise sociopolitique que vivent les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Paix, réconciliation des cœurs, coexistence pacifique constituent donc l'essentiel du message porté et remis à main propre par une délégation des fonds du Dongamantoum au premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Gouté pour que revienne le vivre ensemble harmonieux entre les uns autochtones et les autres représentants de la communauté minoritaire appelée Mbororo, sédentarisée depuis belle lurette. Fon Jofo Maurice Ndi, chef de la délégation.
Ma délégation est constituée des fonds du département de Dongamantoum. Nous sommes ici pour informer le premier ministre chef du gouvernement de l'organisation de la caravane de la paix et de réconciliation des filles et fils de Dongamantoum. La caravane se tiendra le 12 octobre prochain en Kambé. Elle sera sanctionnée par un document dénommé Déclaration d'un Kambé sur la paix et le vivre ensemble.
Déclaration d'un Kambé.
Depuis presque un siècle, tous ont toujours vécu en paix dans ce département du Dongamantoum qui leur est commun, à l'exception des petits conflits fonciers et agro-pastoraux courants. Avec la survenue de la crise dite anglophone en 2017, les conflits se sont multipliés au point de s'exacerber. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, a salué la belle initiative et encouragé les faunes à y persévérer. Comme l'hirondelle qui annonce les beaux jours, les faunes du département du Dongamantoum annonce probablement un retour définitif à la paix dans l'édification d'un Cameroun uni et prospère, à commencer par leur département d'origine. Immeuble Étoile, Laurentine Bokono, CRTV.
Toujours dans le registre des audiences, le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebeahissi, a reçu le directeur régional des programmes de développement durable de la Banque mondiale pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Les deux personnalités ont échangé sur le cadre juridique et institutionnel en matière d'acquisition de terres. L'hôte du ministre en charge des domaines était accompagné de plusieurs collaborateurs, dont Nicolas Perrin, responsable au pôle mondial d'expertise en développement social, que nous vous proposons d'écouter au micro de Rose Coco.
Nous sommes heureux de venir au ministère pour pouvoir discuter de projets que nous faisons conjointement pour réfléchir un petit peu au problème d'expropriation au Cameroun et essayer de travailler ensemble à un cadre harmonieux pour pouvoir permettre des politiques d'expropriation efficaces, mais aussi de remboursement des personnes qui sont expropriées. C'était quelque chose de très important, puisque ça permet effectivement à la Banque mondiale de supporter le Cameroun dans ses efforts de développement, et notamment de développement urbain. Et donc nous nous réjouissons de cette très forte collaboration avec M. le ministre. Ce travail à la fois législatif, mais aussi normatif que nous sommes en train de faire ensemble sur ces principaux problèmes d'expropriation et de réinstallation.
Il s'agit bel et bien de Nicolas Penin, responsable au pôle mondial d'expertise en développement social. Les signes annonciateurs de la troisième édition du Forum économique de Douala sont perceptibles. Le maire de la ville, Roger Mbassandini, lance un appel aux investisseurs d'ici et d'ailleurs. Une opportunité pour eux de contribuer à l'arrimage de la capitale économique aux standards mondiaux. Chris Patricia Lulouga.
Situé aux extrémités de l'axe de la baie Sékou et habitué à accueillir la plupart des grands événements de la capitale économique, la Maison de la Culture Sawa abritera du 11 au 15 novembre 2024 la troisième édition du Forum économique de Douala. Plusieurs thématiques ayant trait au développement de la capitale économique seront sur la table avec le concours des experts et des autorités municipales. Docteur Roger Mbassandine, maire de la ville de Douala.
L'industrie de l'immobilier et la logistique de transport seront à l'honneur à l'occasion de ce rendez-vous des acteurs du monde des affaires du Cameroun et de l'Afrique centrale.
La capitale économique est prête à accueillir les investisseurs nationaux et internationaux.
Le maire de la ville que je suis invite tous les acteurs économiques, locaux et internationaux, désireux d'investir dans une ville de Douala en pleine mutation, à répondre présent, afin qu'ensemble nous contribuions au renforcement des politiques publiques locales, au développement et à l'émergence d'une capitale économique encore plus attractive.
Le promoteur du Forum économique de Douala, Olivier Kingemouli, rappelle également que la mobilité urbaine et le transport fluvial seront les autres thèmes abordés au cours du Forum économique de Douala. Douala, Chris Patricia, Lulouga, CRTV.
Vous êtes sur le poste national de la CRTV. Ouvrons à présent notre dossier du soir. Plus que quelques semaines et ce sera la rentrée officielle dans les universités au Cameroun. Avant le démarrage effectif des cours, les inscriptions se poursuivent alors que le calendrier pédagogique déjà connu dévoile les grandes orientations de cette nouvelle année académique. Les précisions de Marie-Claire Messier Kwapna.
La professionnalisation des enseignements dans les universités privées au Cameroun est un processus qui vise à améliorer la qualité de la formation et à répondre aux besoins du marché de l'emploi. Lucien Siantou, promoteur de l'Institut universitaire Siantou.
Nous sommes dans le génie civil, le génie logistique. Nous sommes dans tout ce qu'on appelle le génie. Nous travaillons en partenariat avec l'Université de Yaoundé 1, c'est-à-dire en particulier avec l'École supérieure polytechnique de Yaoundé.
Maître Lamango Magdaline, épouse Eno, promotrice de l'Institut universitaire sous-régional bilingue à Genla Academy.
Nous étions déjà dans la logique de l'université entreprise. Comment faire pour innover sur les perspectives dans le domaine de leurs activités et pour conforter la notion de l'université entreprise au Cameroun.
Une nouvelle dynamique au cœur des travaux du Forum d'imprégnation des promoteurs des instituts privés axés sur le concept université entreprise et dont l'objectif est de promouvoir l'autonomisation des jeunes.
Nous avons des projets à imprimante de laser, imprimante de 3D, imprimante à stylo. Ces projets sont faits à UIC, également en prototypage. Et après, nous devons passer déjà à la phase réalisation pour la commercialisation en grande échelle.
Des défis à relever selon le professeur Jacques Famdongo et qui nécessitent les efforts conjugués de tous les maillons de la chaîne de ce secteur éducatif en vue de réduire le taux de chômage des jeunes au Cameroun.
Un petit tour dans les campus. À l'université de Yaoundé 1, les préinscriptions drainent du monde sur le campus, justement. Elles sont coordonnées par des anciens membres des associations estudiantines reconnues par l'administration. Objectif, faciliter l'intégration des nouveaux bacheliers en Guayaquil. Cela se déroule sous la supervision du recteur Rémi Magloire, Dieudonné et toi. Jusqu'à date, tout se déroule sans anicroche, nous dit Awaïssa de CRTV Centre.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je suis venu pour la préinscription.
Il s'agit de quelle faculté de mademoiselle?
Faculté sciences.
Par petits groupes ou accompagnés de leurs parents, les nouveaux bacheliers arpentent la colline du savoir pour se renseigner et si possible faire valider leur préinscription dans l'une des facultés que compte cette prestigieuse université.
Moi c'est Liassène, présent ici aujourd'hui pour mes préinscriptions. Et là je suis en train d'aller faire des visites médicales. Je veux me préinscrire en sciences de l'éducation.
Cette phase est pilotée par des anciens étudiants qui ont préalablement reçu l'onction du recteur, le professeur Rémi Magloire, Dieudonné et toi. Leur mission est de veiller à la transparence et au bon déroulement de ces opérations.
Nous orientons l'étudiant. Si c'est qui veut la construction du dossier, c'est appelé à fournir cette construction du dossier pour l'aider dans sa tâche. Si l'étudiant dispose d'un téléphone Android qui vient peut-être pour les préinscriptions en ligne, nous sommes appelés à l'aider gratuitement.
Pendant ce temps, les anciens COPS renoue progressivement avec les amphis en fonction des différents emplois de temps publiés. Pour les nouveaux, après la phase de préinscription, s'acquitter de leurs droits universitaires auprès des institutions bancaires agréées restera le prochain cap à franchir. Et en attendant la rentrée officielle prévue pour le 5 octobre prochain, la maire des universités se fait une peau neuve dans l'optique de réserver un accueil des plus chaleureux à ses étudiants dans un cadre propre et sain. Hawaïssa, CRTV Centre.
À l'université de Berthois, les cours ont débuté depuis la semaine dernière. Les responsables mettent tout en œuvre pour accueillir en toute sérénité les nouveaux étudiants le 4 octobre prochain. Dieudonné Taoyan de CRTV Est.
À l'université de Berthois, le train a quitté la gare pour l'année académique 2024-2025. Les étudiants des niveaux 2 et 3 et ceux du master ont renoué avec les amphis.
Sobgekin Fak Michel Ange, étudiante à la faculté des sciences de Berthois. Cette première semaine de rentrée s'est très bien passée. Les cours ont repris dans de très bonnes conditions. Tous les docteurs sont là pour dispenser les cours.
À la faculté des sciences, tous les efforts ont été déployés pour accueillir les nouveaux étudiants afin de leur offrir un environnement sain et sécurisé. Jean-Lucien Meva, doyen de la faculté des sciences.
Les préinscriptions se passent bien, suivant le calendrier qui a été arrêté par monsieur le recteur de l'université de Berthois, avec des étudiants qui viennent de plus en plus pour déposer leur dossier.
Ambiance similaire à la faculté des arts, des lettres, des sciences humaines. Martin Paul Medjo, doyen.
Vous avez vu l'enthousiasme avec lequel les enseignants, le personnel administratif, les étudiants sont dans les amphis et dans les bureaux pour travailler.
Le corps enseignant et les anciens étudiants de l'université de Berthois sont présents. En attendant, les nouveaux entrants, le 4 octobre prochain, Berthois, Dieudonné Taoyan, CRTV.
À noter que les jeunes bacheliers qui frappent aux portes des universités et grandes écoles sont quelquefois confrontés à la difficile équation du choix de la filière. Si certains voient leurs vœux exaucés et sont admis dans la filière sollicitée, d'autres par contre sont obligés de se contenter de ce qui leur est proposé. Mimosette Tonien.
L'entrée des nouveaux bacheliers dans l'enseignement supérieur nécessite d'opérer un choix judicieux en relation avec sa formation antérieure. Les jeunes bacheliers qui frappent aux portes des universités et grandes écoles sont quelquefois confrontés à cette réalité. Le choix de la filière et du parcours d'études peut traduire la concrétisation d'un vœu préalablement nourri pour certains. D'autres, par contre, se voient orientés dans une filière qu'ils n'ont pas sollicitée au départ, soit en raison d'un profil non conforme, soit à cause d'une sélection rigoureuse à laquelle ils n'ont pas satisfait, ce qui entraîne par conséquent un choix par défaut qui, selon les cas, peut être à l'origine d'un échec en fin d'année. Depuis quelques années, les institutions d'enseignement supérieur ont en leur sein des conseillers d'orientation qui ont pour rôle de présenter et d'expliquer l'éventail des offres de formation qui correspondent le mieux au profil des postulants. Le cas échéant, au bout de l'échec, l'étudiant doit obligatoirement être réorienté pour éviter l'abandon. L'entrée dans les des grandes écoles et universités doit s'intégrer dans un projet d'études pensé dès le secondaire, ce qui suppose de fournir des efforts à la mesure des ambitions de l'étudiant qu'on souhaite devenir.
Ignace Essono est l'invité du 20h, le chef service de l'orientation professionnelle et de l'appui au développement à l'université de Yaoundé 2 souligne l'importance de l'orientation académique, un dispositif qui permet d'encadrer le choix de filière du futur étudiant. Ignace Essono se confie à Mimosette Tonien.
Ignace Essono, bonsoir. Vous procédez en ce moment aux préinscriptions et inscriptions pour le compte de l'année académique 2024-2025. Comment le jeune bachelier est-il accueilli dans votre institution?
Il est d'abord dirigé vers la commission d'orientation académique. Ici, le nouvel étudiant est suffisamment informé sur les filières d'études, le contenu de ces filières. Il est informé sur les débouchés de ces filières, les débouchés dans le secteur public comme les débouchés dans le secteur privé de l'emploi. Au moment de choisir, il doit avoir l'ensemble de l'information qui lui permet d'opérer un choix judicieux. De plus en plus, nos étudiants et nos diplômés vont vers des filières où ils ont beaucoup plus de chances de trouver l'emploi. Le conseiller d'orientation, l'enseignant ou le parent sont des accompagnateurs. Celui qui prend la dernière décision, c'est le nouvel arrivant, car il doit pouvoir assumer son choix. Et à l'issue de l'entretien avec les conseillers d'orientation, il lui est délivré un certificat d'orientation qui lui permet de pouvoir se diriger vers la faculté de son choix. Et c'est ainsi qu'il peut continuer la suite de la procédure de préinscription et d'inscription.
À partir de quels critères l'apprenant est orienté dans telle ou telle autre filière?
Il y a son type de diplôme, il y a la filière elle-même, son projet professionnel et aussi par rapport aux débouchés sur le marché de l'emploi.
Est-ce qu'il vous arrive d'attirer l'attention du futur étudiant sur le choix de sa filière?
Lorsqu'ils arrivent, parfois ils n'ont pas l'information adéquate. Le conseiller ici est appelé à recadrer le jeune apprenant sur la filière, sur les tenants et les aboutissants de la formation qu'il espère obtenir. Après ces éclairages, cet étudiant peut changer son option ou alors, comme il revient à lui de pouvoir décider en dernier ressort, il peut arriver qu'il décide de maintenir son choix. Tout dépend de son projet professionnel, de ses ambitions personnelles. Le conseil est appelé à attirer l'attention du jeune apprenant sur les difficultés qu'il pourra rencontrer. Et s'il insiste, le conseiller va essayer d'appuyer sur la nécessité pour lui de travailler davantage sur certaines matières, étant donné qu'il a déjà un désavantage.
Ignace Essono, merci.
Au bas de notre dossier, pour accompagner les nouveaux bacheliers de sa commune dans les universités, le maire d'Ayos, président de la section RDPC d'Union Infumu Nord, leur attribue des bourses académiques. La cérémonie de remise de ces bourses académiques aura lieu jeudi prochain, 26 septembre 2024, dès 11h au foyer municipal d'Ayos. Paul Ndongobiko invite à cette fête de l'excellence toutes les populations de sa municipalité. Toujours dans les campus, concours d'entrée à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV, la session 2024 se poursuit demain mercredi dans les différents centres d'examen à Yaoundé et dans les régions où plus d'une centaine de jeunes composent. Après les épreuves écrites ce mardi, la journée de demain sera consacrée aux épreuves orales et pratiques. À l'issue de la première journée, quelques candidats s'exprime au micro d'Agnès Sylviane Antama.
La première journée s'est très bien passée. Les épreuves ont été abordables. Je pense que si on continue comme ça, ça sent bon, ça promet. Et au niveau des épreuves, c'est plus les connaissances de base. La journée de demain est essayer de parcourir mes différents documents et me préparer pour l'oral. Donc je vais rester zen et je vais rester confiant.
Bon, concernant la première journée, tout est sous contrôle, j'ai bien composé. On peut dire, bon, l'IFCPA d'abord, c'est là une institution tellement connue et aspire à avoir vraiment une formation de qualité. Et après cette formation, j'espère que je pourrais d'abord m'envoler de mes propres ailes.
trois épreuves étaient abordables et ça s'est bien passé. Nous serons devant des jurys pour l'oral, donc tellement de confiance. J'espère que ça va bien se dérouler.
Heures passées de 20 minutes, rétablissement de la circulation sur le pont d'Anaï à Yagoua. Les travaux sont en cours. L'entreprise en charge de l'exécution du marché est déjà sur le terrain. Le ministère des Travaux publics y veille pour fluidifier la mobilité dans la ville de Yagoua et ses environs. Honoré Mbouaké.
La circulation entre la partie nord et sud de la ville de Yagoua et inversement, coupée après l'affaissement du pont sur la rivière d'Anaï, sera bientôt possible. Les travaux viennent d'être engagés sur instruction du ministère des Travaux publics. Guy Edjondongo est le délégué départemental du dit ministère.
L'entreprise Cococh est mobilisée sur le terrain avec le ravitaillement en bloc rocheux. L'appel excavatrice est arrivé. L'entreprise a commencé par mettre en place ce qu'on appelle bâtardeau pour que les eaux ne puissent pas envahir la zone des travaux.
Ces travaux exécutés en urgence visent à rétablir la mobilité urbaine et interurbaine dans la ville de Yagoua et ses environs dans un contexte impacté par les inondations.
C'est pour rétablir la circulation et permettre aux personnes ou bien les véhicules, aux populations de pouvoir monter et descendre.
Pour accélérer la reprise de la circulation dans la ville, les travaux se déroulent en plusieurs phases, précise le délégué départemental des travaux publics pour le maillot d'Anaï.
Ils sont en train de travailler présentement demi-chaussée. Dès qu'ils atteignent la profondeur requise d'un côté, ils vont donc mettre les blocs rochers. Ils se déportent de l'autre côté pour l'autre demi-chaussée. Les blocs, l'entreprise les plan à sa base à 30 km après Marois.
Les travaux en cours sur ce trouvage de franchissement sont provisoires. Un projet de construction définitive est déjà arrêté et sera implémenté une fois toutes les conditions réunies. Yagoua, Honoré Mbouaké, CRTV.
La commune de Belel franchit une étape importante dans son développement infrastructurel. C'est à travers la réception d'une nouvelle machine à fabriquer des pavés. Cette dotation du ministère de l'Habitat et du Développement urbain vise à répondre aux besoins en matériaux de construction dans la région, tout en contribuant à la création d'emplois. La cérémonie de réception s'est déroulée à l'esplanade de la mairie de Belel, en présence des autorités municipales et des chefs traditionnels. Daniel Belinga Ingeni.
L'unité de production d'une capacité de 3000 pavés par jour permettra à la commune de fabriquer des pavés en grande qualité et à moindre coût. Une dotation du ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de modernisation et d'embellissement des espaces publics, incluant notamment la réhabilitation des routes secondaires, des places publiques et des aires de jeu. Abou Aboubakar, maire de Belel.
Nous a inspiré la création d'une briqueterie pour permettre également, par effet induit, l'amélioration, n'est-ce pas, de l'habitat. Les concessions sont en général construites en terre et je pense qu'il faut aller plus loin.
Le maire a par ailleurs annoncé que des formations seraient organisées pour permettre aux jeunes de la commune d'acquérir des compétences nécessaires à l'utilisation.
Au moins d'une centaine de jeunes ici à Belel. En IMO, la commune va investir pour que les jeunes de Belel trouvent une activité qui leur permette d'avoir un revenu.
Avec cette machine à paver, la commune de Belel ambitionne de devenir un pôle local de production de matériaux de construction et de jouer un rôle clé dans l'amélioration des infrastructures dans la région. L'avenir s'annonce prometteur pour Belel, avec cette étape décisive dans son développement. Belel, Daniel Belinga Ingené, CRTV.
Agir en faveur des personnes âgées, une campagne baptisée « Je paye la facture d'électricité d'un senior » est en cours. Elle est lancée par l'AFTA, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la promotion du bien-être des personnes du troisième âge. Marlise Natachamban.
Massage, soins de beauté et autres activités de détente. Les personnes âgées sont aux petits soins au centre LAFTA, une sorte de musée du bonheur et du bien-être.
À quoi on en était au fil? Le dos me fait mal. Dès qu'on m'a mis là, ça a un peu baissé.
Mamie Madou, je joue au piano. J'ai trouvé l'accueil formidable.
Des hommes et des femmes, tous bénévoles, prennent soin de ces seniors. Dans leurs tâches quotidiennes, ils les aident à surmonter le stress et les bobos de santé, explique Théophile Kouenje, encadreurs.
On leur administre des soins de détartrage dentaire, on leur fait des séances de kiné, des massages, tout est gratuit.
L'ONG conduit depuis lundi une campagne baptisée « Je paie la facture d'électricité d'un senior ». À travers ce slogan, Théophile et ses collègues sensibilisent les populations sur l'importance d'entretenir les personnes âgées.
Vous êtes volontaire, vous arrivez ici, oui. Alors maman, vous avez une facture énergétique de combien? Ok, je vais payer celle qui coûte 3 000. Je vais à la caisse avec toi, je paye.
Un élan de générosité attendu jusqu'au 30 septembre. L'action s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre prochain.
Sport, finale de la Coupe du Cameroun de football, jour J-4. Les clubs finalistes intensifient leur préparation. Colombe Sportive du Jai Lobo a disputé ce jour un match amical contre la PGS Domfou. Question de roder son effectif. Jean Armstrong Ndjou.
Rentrée en stage bloqué le 15 septembre, la colombe sportive du Dia et Lobo poursuit sereinement et efficacement sa préparation pour la finale de la Coupe du Cameroun de football que le club dispute pour la première fois de son histoire. Mardi matin, ce sont des joueurs hyper motivés qui ont livré un match amical contre PGS Domfou.
Ivan Vondo, milieu de couloir, colombe sportive du Dia et Lobo. Nous sommes gonflés à bloc. Nous sommes presque toujours dans notre préparation. Nous avons de faire un très grand match et de remporter le coup fait dimanche.
Et côté Boris, ailier gauche du Colombia et Lobo.
Nous allons tout donner, travail très dur pour porter vraiment cette finale. Nous sommes chargés à bloc.
4-1, un résultat qui satisfait l'encadrement technique. Richard Toa, coach.
Aujourd'hui, on n'a pas eu trop d'occasions de but, mais on a été réaliste puisqu'on a marqué 4 buts et c'est des actions vraiment que nous on a pu parfois travailler à l'entraînement et les gamins remontent une fois de plus qu'ils sont réceptifs. Et je crois que là, on peut, n'est-ce pas, avoir la ferme conviction un bon match dimanche.
Selon le psychothérapeute Yannick Emana, l'infirmerie du club renferme quelques petits problèmes de microfracture qui seront réglés avant le face-à-face de dimanche.
Retenir de ce journal, la promotion du vivre ensemble, une caravane de paix et de réconciliation va sillonner le département du Dongamantung le 12 octobre prochain. Annonce des chefs traditionnels du Nord-Ouest reçue ce jour à Yaoundé par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Sport, Coupe du Cameroun de football, les équipes finalistes se préparent activement avec en idée chacune de remporter le trophée. 20h27, fin de ce journal technique Christian Foucault, réalisation Christine Victoria Penda, assistée de Venant Pascal Beyer, stagiaire de l'Estic, relecture Christopher Nkemeni, rédacteur en chef Simon Lyonga. Je suis Marie-Chantal Noah, merci, restons avec la CRTV.